sein, où secrètement seul tu demeures, et dans ton aspiration savoureuse, remplie de bien et de gloire, combien, avec quelle délicatesse, tu me rends amoureuse,
tu m'en amoureux,
voilà. Bien. Cette fois, le saint nous dit que l'âme s'adresse à l'époux. L'époux, c'est clair, c'est le Verbe. Cela s'articule, le Verbe, le Fils de Dieu. Nous trouvons tout à fait l'élan du cantique spirituel. Rappelons-nous la première strophe de la vie flamme. La flamme est l'esprit de l'époux. Hein? Voilà, c'est très clair. Elle se tourne vers l'époux et de fait, l'Esprit Saint est notre trait d'union, notre communion en personne avec Jésus dans l'Église. Ce sont des affirmations du Père Léthel, mais qui sont très, très grandes clés. L'Esprit Saint est en personne notre communion avec Jésus dans l'Église. Voilà. Donc nous pouvons dire que ce petit traité du Saint-Esprit, ce traité du moderne du Saint-Esprit qui nous a concentré sur la mission de l'Esprit Saint à l'âme, ne la sépare jamais de celle du Verbe, du Fils de Dieu, les deux personnes envoyées de la Trinité, dans l'Esprit, par le Fils, au Père. Alors, nous avons donc ce « tu » de l'âme à l'époux. Deux effets admirables. Le premier est un réveil, le second est un souffle, une exhalaison, une aspiration de Dieu en l'âme. Donc un réveil de Dieu en l'âme, nous allons voir s'il s'agit d'un réveil de Dieu en l'âme ou d'un éveil de l'âme à Dieu. Bon. Et ensuite d'un souffle, d'une exhalaison, d'une aspiration dont Jean de la Croix ne veut quasiment rien dire. Et il nous laisse sur un grand silence, et ce sont ses adieux. D'accord ? Bon, j'ai mis ça dans la feuille. Hein. Vous l'avez la feuille là que je vous ai fait passer. Vous l'avez tous là hein, maintenant ? Plan d'étude 6. Hein. Bien. La strophe 4, le plan d'étude 6, je vous l'ai fait passer. Hein. Vous l'avez maintenant. Hein. D'accord ? Juste à l'instant. Bien, alors nous allons aborder cela dans le temps qui nous reste. Il me semble qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, si on prend, je l'ai mis plutôt à la fin de mon analyse, quand on évoque un réveil, c'est la fin de la nuit, non? Donc c'est intéressant de voir que sur un plan symbolique, ici, ça continue bien, et ça prolonge bien, et ça achève bien tout le symbolisme de la nuit, du livre de la nuit. Qui dit nuit, et qui dit fin de la nuit, dit petit matin, et dit petit matin de...
Résurrection.
Eh oui. Donc il y a bien quelque chose, tout à fait entre les lignes ici, en filigrane, sûrement quelque chose du mystère de la résurrection. Sûrement. D'autant plus que nous avons ce souffle, que Dieu souffle dans l'âme, à laquelle l'âme participe, et que fait le ressuscité ? Lorsqu'il se montre à ses disciples le soir de la résurrection, il souffle sur eux l'Esprit. Et donc, comme ça en filigrane derrière, certainement, ce mystère du Christ ressuscité qui souffle l'Esprit. Il y a bien quelque chose de ça. Certaine participation de l'âme à ce mystère. Quelque chose, hein, c'est une simple évocation, mais voilà. Hein. Intéressant de penser à ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce réveil du Verbe qui doucement et amoureusement se réveille dans l'âme? Donc nous allons lire 3 et 4, paragraphe 3 et 4. Et dégager quelques points essentiels. Y aller, paragraphe 3 et 4. Tu vas, Pierre?
Oui, vas-y. L'âme, ici, se tourne vers son époux avec beaucoup d'amour, l'estimant et le remerciant de deux effets admirables, que parfois il fait en elle par le moyen de cette union. Notons aussi le mode.
Il a repris le paragraphe 1, mais c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, ça fait rien. Non, mais il est en préparatif d'examen, il est à tout, ça fait rien. Non, mais lis-le, il n'y a pas de problème.
Notons aussi le mode avec lequel il fait chacun d'eux, et aussi l'effet qui en elle rejaillit en cette occasion. Le premier effet est un éveil de Dieu en l'âme, et le mode avec lequel celui-ci se fait. Avec lequel celui-ci se fait est de douceur et d'amour. Le second est une aspiration de Dieu en l'âme, et son mode est de bien et de gloire qui se communique en l'aspiration.
Et d'autant plus que la gloire est liée à l'esprit. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, intéressant, dans les symboles. Bon.
Et ce qui de là en rejaillit sur l'âme, c'est de l'énamourer délicatement et tendrement.
Trois, donc.
Et ainsi, c'est comme si elle disait « Le réveil que tu fais au Verbe époux, dans le centre et le fond de mon âme, qui est la pure et intime substance pour elle, en laquelle, secrètement et silencieusement seul, comme son seul Seigneur, tu demeures, non seulement comme en ta maison, non seulement comme dans ton lit même, mais encore comme en mon propre sein, intimement et étroitement uni. Combien avec douceur et amoureusement le fais-tu ? C'est dire que tu es grandement amoureux et doux. Et en cette savoureuse aspiration, quand se réveille qui est tien, tu fais savoureuse pour moi, car elle est pleine de bien et de gloire, avec combien de délicatesse tu m'énamoures et m'affectionnes à toi. Pour cela, l'âme prend la comparaison de celui qui respire quand il se réveille de son sommeil.
Je ne sais pas si vous avez observé ça, mais pour Saint Jean de la Croix, ça paraît assez évident. Donc, quand on se réveille, sans doute, on a une espèce de soupir d'aise, ou de je ne sais pas quoi. Bon.
Car, à la vérité, elle le sent alors ainsi. Suis le vers, combien doux et amoureux t'éveilles-tu en mon sein.
Bien, je vous fais relever, on va lire le paragraphe 4 ensuite. Tout ce vocabulaire de l'intimité, de l'intériorité, la substance intime, la demeure secrète, le lit, le sein, toutes ces choses de l'amour nuptial, que Jean de la Croix, à sa manière habituelle, évoque avec délicatesse, limpidité, bon. Et puis, donc, ce vocabulaire de l'intériorité très fort, parce qu'on va voir que dans l'intériorité la plus grande, il y a une suprême ouverture. C'est ça qui est très intéressant. On est donc au fond de l'âme, au centre, tout ce qu'il a évoqué à la strophe 1, vous vous rappelez, paragraphe 9 à 14 de la strophe 1. Bien, donc c'est un premier point. Deuxième chose que vous voyez aussi, et qui va de pair avec le centre de l'âme et le fond de l'âme, c'est « tu y demeures seul », c'est-à-dire comme seul seigneur d'elle. Donc, c'est la question de la solitude pour Saint Jean de la Croix. La solitude intérieure de l'âme, le centre de l'âme, c'est la solitude, l'espace seul. Il n'y a que le Verbe, l'époux. Il n'y a rien d'autre. Il en est le seul Seigneur. Voilà le sens de la solitude pour Jean de la Croix. Que Dieu soit le seul Seigneur du cœur humain, de l'existence humaine. C'est ça le sens de la solitude. C'est ces strophes aussi du cantique, elle vivait dans la solitude, etc. Strophe 34 et 35 du Cantique spirituel B. Bon, voilà. Alors, nous pouvons lire le 4.
Pardon. Recuerdo, c'est pas seulement le réveil, c'est aussi le rappel, la mémoire.
Oui. Réveil, rappel. Mais tu te rappelles, oui, ça revient un peu au même, oui. Recuerdo, oui.
Est-ce que chez lui, il n'y a pas...
Un jeu là-dessus. Un jeu, oui. Mémoire de la présence, oui. La mémoire touchée, c'est possible, oui. Mais dans le sens de l'espagnol ancien, recordar, c'est tout à fait se réveiller. Oui. C'est sans aucun problème en espagnol ancien. Voilà. 4. Paragraphe 4, s'il vous plaît.
Il y a tant de manières de réveil que Dieu fait à l'âme, que si nous devions nous mettre à les raconter, jamais nous n'aurions fini.
Donc c'est au pluriel, ça va ?
Mais ce réveil qu'ici l'âme veut donner à entendre, réveil que lui fait le Fils de Dieu, est à mon avis des plus relevés et de ceux qui font le plus grand bien à l'âme. Car ce réveil est un mouvement que fait le Verbe en la substance de l'âme, d'une telle grandeur, seigneurie et gloire, et d'une telle suavité intime, qu'il paraît à l'âme que tous les baumes et parfums odorants et fleurs du monde se remuent et s'agitent, se mélangeant pour donner leur suavité, et que tous les royaumes et seigneuries du monde et que toutes les puissances et vertus du ciel s'émeuvent. Et non seulement cela, mais qu'aussi toutes les vertus et substances et perfections et grâces de toutes les choses créées resplendissent et font le même mouvement, toutes unanimement et à l'unisson. Et attendu que, comme dit saint Jean, toutes les choses en lui sont vie, et en lui vivent et se meuvent, comme dit aussi l'apôtre. De là vient que, ce si grand empereur, se mouvant dans l'âme, dont la principauté, comme dit Isaïe, il la porte sur l'épaule, qui sont les trois machines de l'univers céleste, terrestre et infernal.
Alors on a la cosmogonie de l'époque de saint Jean de la Croix, hein?
Et les choses contenues en elles, les portant toutes, comme dit saint Paul, avec le verbe de sa vertu, toutes ensemble paraissent se mouvoir, de la façon qu'au mouvement de la terre se meuvent toutes les choses matérielles qu'il y a en elles, comme si elles n'étaient rien. Il en est ainsi qu'en ce prince qui porte sur lui sa cour, et non la cour qui le porte à lui.
Bien, alors vous voyez, là on entre dans quelque chose d'un petit peu étonnant. Se réveille, y compris comme une sorte d'ébranlement intérieur qui devient un éblouissement. On verra davantage au paragraphe 5. Le mouvement des êtres, des créatures, qui a sa source en Dieu. Dieu se dévoile, au fond, c'est ça, comme source de tout mouvement, de toute vie, de toute durée, de toute puissance. Saint Jean de la Croix va nous faire comprendre ensuite, au paragraphe 5 et 6, que ce mouvement divin n'affecte pas l'immutabilité divine. Dieu est immuable. Eh oui. C'est-à-dire que Dieu ne change pas, il n'est pas en devenir. Mais le livre de la sagesse nous a montré que cette sagesse était mobile, subtile. Elle est mobile dans le sens où elle rayonne et imprime sa ressemblance. Elle n'est pas mue, elle n'est pas en devenir. C'est ça le mouvement en Dieu. Dieu est immuable, et cependant il y a un mouvement, une vie. Mais au fond, c'est l'âme qui est mise en mouvement, qui est éveillée par cette communication. C'est ce qu'il va dire au paragraphe 5. On dit que Dieu s'éveille, mais Dieu ne dort pas. Il ne dort pas, le gardien d'Israël, dit-il. C'est l'âme, au fond, qui s'éveille. Dieu est mouvement dans le sens où il donne mouvement et vie et renouvelle tout. Ça va ? Il est mouvement dans le sens où il est moteur. Ça peut aller, ça ? Vous pourrez lire dans la Prima de saint Thomas la question 9 sur l'immutabilité divine. Donc ce que l'âme entrevoit, parce qu'il va nous dire ensuite qu'elle ne fait que l'entrevoir, entrevisor, il le dit, eh bien c'est à quel point Dieu est à la racine de tous les êtres. Il donne l'impulsion de vie, la chiquenote de vie à tous les êtres. Et l'âme va percevoir ce statut de créature de tous les êtres, mais surtout leur lien au Créateur, qui le représente du dedans. Donc au fond, c'est un petit peu cette présence d'immensité que la créature découvre, dans laquelle elle est immergée, que l'âme découvre. « Dieu voit ce que Dieu est en lui-même et il est vie. En lui était la vie, ce qu'il est dans ses créatures. Et alors, Saint Jean de la Croix fait comprendre au paragraphe 7 que elle découvre plus Dieu à travers les créatures, dans les créatures, elle découvre les créatures en Dieu. C'est vraiment un dévoilement, il dit que ce n'est pas complet. Mais on enlève les voiles et on découvre quelque chose de manière obscure. Donc c'est une communication de Dieu qui est un dévoilement.
Il n'y a pas quelque chose comme ça dans Sainte Thérèse d'Avila. Ça, une de ses visions.
Possible.
Intellectuelle aussi.
C'est possible. J'ai rien présentement, mais ça peut revenir si jamais. Oui, on essaiera de préciser, je ne sais pas. Oui, je n'ai rien à l'esprit. Alors, et Saint Jean de la Croix, dans les paragraphes 8, 9, 10, 11, 12, 13, va montrer que ce serait insoutenable en soi, ça, ce dévoilement, cette lumière. Et cependant, il dit que c'est doux, c'est dans la douceur. Comment soutenir un tel éclat de lumière? Alors, il dit bien que c'est en vertu du don de la grâce. Et il dit aussi, c'est parce que l'âme a accepté de se purifier et d'être purifiée. Donc, c'est paragraphe 12, 13, page 1042-1043. Et là, c'est la reine Esther qui reçoit le sceptre d'Assuérus. Mais il dit comment, au paragraphe 11, il se pose la question, comment l'âme peut-elle supporter cela? C'est parce que Dieu la soutient de sa grâce et parce qu'elle est purifiée. Alors, ce que je vous fais remarquer, c'est qu'il y a eu cette métaphore du lit, de la maison, tout ça. Donc, c'est le maximum d'intimité, d'intériorité. C'est au centre de l'âme où Dieu habite. Et en même temps, avec ce dévoilement, c'est le maximum d'ouverture. Et ouais. L'intériorité n'est pas pour un intimisme et une fermeture, elle est pour un maximum d'ouverture et une entrée maximale dans ce rayonnement de l'être de Dieu. Et cette présence d'immensité, l'immensité de Dieu. Voilà. Donc la concentration, le centre de l'âme, est une ouverture, une expansion, c'est loin d'une étroitesse et d'une finitude. Alors, vous avez ensuite une reprise de ce que Saint Jean de la Croix a enseigné, paragraphe 14 à 16, déjà dans le cantique spirituel, sur ce que c'est que cette présence de Dieu en nous. Il parle d'une étreinte, d'un embrassement, d'un secret, une présence secrète sentie spirituellement. Et ce qui fait comprendre, et je crois qu'il est assez important, c'est que quand on s'intériorise, on ne se retrouve pas seul avec soi-même. On se retrouve au-dedans de soi, mais précédé par Dieu, convoqué par Dieu. Ça, je crois que c'est excessivement important sur toutes les méthodes, au sujet de toutes les méthodes d'intériorisation. Ce n'est pas pour un vide, ce n'est pas pour une solitude. Si, c'est pour une solitude, mais une solitude où règne le Seigneur seul, parce qu'il nous précède et nous convoque. Donc il y a beaucoup d'insistance sur le solo encore dans ces paragraphes. Il faut que l'âme demeure seule, sans ses appétits, pour être agréable, et pour que Dieu se trouve dans sa demeure, qu'il soit chez lui, en nous, chez nous. Il faut que Dieu soit chez lui, chez nous. Et s'il y a beaucoup d'autres choses, il n'est pas chez lui, en nous, il est un peu étranger. Donc on retrouve toujours cette dimension de dépouillement, de désencombrement, de liberté. Elle est coextensive à tout le message de Jean de la Croix. Il n'y a rien à faire, ça en fait toujours partie. Voilà. Dieu habite. Chez certains, Dieu a sa demeure, mais c'est une demeure provisoire et partagée. Il y a d'autres habitants. Donc, il n'est pas très content. Et chez eux, il a des réveils moins qualifiés. Il y a des interférences. Tandis que chez Shoseki, il demeure seul, alors il s'éveille. Ou plutôt, l'âme se réveille totalement à sa présence. Donc, vous retrouverez beaucoup de l'enseignement qu'il donne dans le cantique spirituel B, à la strophe 11, « Découvre ta présence ». Cantique spirituel B, 11. La strophe qu'il a ajoutée, d'ailleurs, au chant du cantique. Et que ta vue me tue. Fasse mourir. Bien. Alors, voilà ce qu'on peut dire sur ce réveil. En douceur, etc. L'éveil à une présence, je vous ai mis tout ça. Bien, vous pourrez voir les parallèles dans les septièmes demeures. Et je vous ai signalé aussi que nous sommes dans le présent. Il n'y a plus cette tension passé, présent, futur des strophes 1 et 2 surtout. Alors nous abordons le dernier point, ce mystérieux au-delà du réveil. Donc ce souffle exhalé dans l'âme qui l'embrase et l'aspire dans les profondeurs de Dieu. Alors évidemment, on retrouve cette théologie du verbe spirant l'amour chez saint Thomas, chez saint Augustin, je vous ai mis les références. Le verbe qui s'éveille en nous est toujours le verbe spirant l'amour. Une personne n'est jamais sans l'autre. Elles sont inséparables. Le verbe articule l'esprit, disait saint Irénée. Donc là, nous avons une sorte d'ouverture. Un souffle est exhalé, un soupir, une respiration, et l'âme est heureuse d'être aspirée dans l'aspiration du Saint-Esprit, ce souffle exhalé par l'Esprit, par l'Époux. Elle est attirée par l'Esprit et plongée dans les profondeurs de Dieu. Elle est envahie par le souffle de Dieu. Et donc, elle est ouverte à l'infini. C'est un peu sur cette ouverture que l'on se trouve. Et on n'en peut rien dire. Cette théologie augustinienne et thomasienne du verbe spirant l'amour, alors vous la trouvez, je vous l'ai mis à la question 24. Ah, je ne vous ai pas mis ça, tiens. Question 43, mais vous avez aussi la question 24, article 4. Question 27, pardon, je déraille. Qu'est-ce que je vous ai mis? Je vous ai mis la 43, oui, il y a toujours la 43, mais vous avez aussi la question 27, article 4. Prima, question 27, article 4. Il parle de cette procession de l'esprit selon la volonté qui fait que c'est notre volonté aussi qui est aspirée dans l'amour de l'Esprit Saint. Saint Thomas montre que cette procession en Dieu, donc il y a une procession selon l'intelligence, qui est celle du Verbe, qui est engendrée. Et il y a aussi une autre procession qui est selon la volonté et qui est comme un souffle, il dit. Ut spiritus, dit Saint Thomas. Procession en Dieu, qui n'est pas selon l'intelligence, fait que nous sommes assimilés au Verbe de Dieu, mais il dit qu'il y a une autre procession en Dieu qui est par mode d'amour, qui ne procède pas comme engendré, comme fils, mais comme un souffle, ut spiritus. C'est donc une communication de l'amour de la nature divine par le Père au Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle la spiration. Spiration d'amour. Sur l'aspiration encore, vous avez la question 28, la question 32, la question 36. L'Esprit Saint procède comme amour. L'amour procède du Verbe. Nous n'aimons rien en dehors de ce que nous n'appréhendons dans une conception de l'Esprit. Le fait de connaître nous fait aimer. Donc c'est normal que du Verbe procède l'Esprit. D'accord ? Bon. Ce que saint Thomas fait comprendre aussi, c'est que en nous, il y a une procession, enfin, comment dire, nous nommons, nous connaissons, mais cette procession, selon l'amour en Dieu, il n'y a rien de semblable dans la création humaine et en nous. Donc, on ne peut pas l'imaginer. Donc, cette histoire de l'aspiration de l'esprit, j'allais dire, ça nous est complètement étranger en soi. Alors que nous produisons un verbe quand nous connaissons quelque chose, et puis nous connaissons cette relation de génération et filiation. Dans la nature humaine, il y a la génération des enfants et la filiation par rapport au père. Donc cette génération paternité-filiation, nous la connaissons, génération-filiation. Tandis que la procession selon le souffle, l'aspiration, nous ne connaissons pas ça. Ce n'est pas dans la création humaine. Et donc c'est très difficile pour nous, dit saint Thomas, de comprendre ça. Hein? Que l'Esprit-Saint procède comme souffle, comme amour du Père. Non, pour vous, ça paraît évident. Bon, bah, d'accord. Je savais que ça. Je vous mets devant quand même les interrogations de saint Thomas d'Aquin. C'est pas rien. Hein? Bon, d'accord. Hein? Bon. Donc, il dit que c'est très difficile à exprimer pour nous, très difficile à comprendre. Mais qu'un amour procède d'une connaissance, oui, ça, on peut l'entrevoir un petit peu. Si nous connaissons quelque chose, nous l'aimons, l'amour est suscité. Donc, il y a un peu quelque chose de ça. Enfin, cette histoire du souffle, de spiration, très difficile. C'est pour ça que je pense que c'est utile de revenir à ce ressuscité qui souffle l'esprit. C'est beaucoup plus concret, c'est le mystère du Christ. Sûrement. Donc, on est inspiré dans cela, je vous ai mis, hein, mais c'est tout. Il parle de fraîcheur, de nouveauté, de délicatesse, et puis point final, et il dit « finisse et je n'en dirai rien de plus hein. ». Donc, il nous fait une petite pirouette finale. Alors, à la strophe 39, il y a plus, d'une certaine façon. Parce qu'il montre que nous sommes vraiment, nous participons à la procession de l'Esprit-Saint, à l'aspiration de l'Esprit, et que notre volonté est assumée, notre amour est assumé. Hein? Rejoint, repris, assumé par l'amour qu'est l'Esprit-Saint, en personne. Verbum spirans amorem. Donc, d'une certaine façon, il en dit plus. Mais dans la vie flamme, il nous laisse sur un seuil de nouveauté, de délicatesse, de fraîcheur, qui n'était pas dans le cantique. C'est une façon pour lui de nous faire ses adieux. Hein? Et voilà. Alors, je vous ai mis cette hypothèse. Est-ce qu'il ne faut pas lire la strophe 4 en premier quand on a lu le cantique spirituel? Donc, ça articule parfaitement. Et après, passer au reste. Voilà. Juste une petite boutade pour finir. Bien. Auriez-vous des questions? Je risque de vous renvoyer à des questions de saint Thomas, hein, pour le coup, si vous me posez des questions, mais bon. Alors, je voudrais...
Pardon,
oui?
Simplement, c'est peut-être trop extérieur, mais tu as dit qu'avec le père Garry, vous aviez... Enfin, ou du moins que le père Garry... T'es très sensible à la théologie orthodoxe.
Oui, oui.
Est-ce que dans la pneumatologie orthodoxe, il y aurait un peu l'équivalent de Saint Jean de la Croix ou...
Eh bien, je ne pense pas au point de... Ce qu'on a chez Saint Jean de la Croix, qui est le propre de la théologie latine occidentale, c'est la question de l'intériorité.
Oui.
Donc, tout ce que Saint Jean de la Croix creuse dans l'intériorité de la personne... ces onctions, ces cavernes, toute cette anthropologie théologale, ça, je ne crois pas qu'on puisse la trouver. Hein? Moi, je n'ai plus les textes de Lovski, tous ces gens-là, là, ces théologiens russes en particulier, là, qui nous avaient fait travailler, je ne les ai plus en tête. On les a ici, hein? Il faudrait regarder. Ce qu'ils avaient bien souligné, ces théologiens russes, c'était surtout ce mystère d'effacement de l'esprit, qui se joint à notre esprit, cette kénose, entre guillemets, de l'esprit. Donc là, il y avait quelque chose que Garrigue a bien répercuté et qu'on trouve bien dans le catéchisme, je vous l'ai dit. Hein? Ça, c'est clair. La théologie orthodoxe, orientale, elle est beaucoup plus portée par le mystère en lui-même plutôt que par le mystère en nous, même s'il y a la question de la divinisation. Mais je veux dire, les orientaux, ils ne vont pas éplucher comme on fait en Occident, ses facultés, ses puissances et tout ça. J'allais dire, ça les rase un peu. C'est pas tellement leur point de vue, quoi. Hein? Voilà. Voilà ce que je pourrais dire comme ça spontanément. Mais j'ai pas les textes comme ça sous la main, comme ça pour vérifier. Moi, c'est déjà un petit peu ancien. C'est un cours de pneumatologie qu'on avait suivi avec le père Garry il y a plus de 20 ans. Hein. Je prends mes notes, mais bon, c'était passionnant. Hein, de voir ça avec les Russes, c'est tout à fait passionnant. Je serais assez content de vous citer en finale un tout petit extrait d'un article du père Mariogène dans Carmel, auquel je vous ai renvoyé dans la biographie. Si par hasard il y en avait qui voulaient le photocopier, j'ai fait la maquette en son temps. Voilà, si vous voyez, si ça vous intéresse. Hein. Bon. C'est, donc, je vous l'ai mis dans la bibliographie. C'est donc le numéro de Vie-Flamme. Attendez que je vous retrouve l'affaire. De Carmel. C'est sur la Vie-Flamme, dans Carmel. Revue paraissant tous les deux mois, 35e année, 1952, numéro 1. Je vous l'ai mis dans la bibliographie que je vous ai donnée au début. Que vous avez bien sûr conservée. Voilà. Donc, si par hasard, il y en avait qui voulaient en faire une photocopie au lieu d'aller le chercher, je ne sais pas si on l'a à la bibliothèque, ce numéro-là, je le tiens à votre disposition. Mais j'ai relevé deux ou trois expressions qui peuvent peut-être nous permettre d'entrer simplement dans cette Vie-Flamme, de la relire. Et je crois que c'est tout à fait le charisme du Père Marie-Eugène que de donner ce type de clé. Il dit dans le commentaire de la première strophe, dans l'introduction, en fait, non, dans l'introduction de cet article, les états décrits dans la Vie-Flamme sont probablement les plus élevés que le saint ait vécu. Ils nous paraissent cependant les moins complexes, presque les plus abordables. Donc ça met toutes vos objections par terre. Je suis heureux de vous dire ça à la fin de la session. Voilà, je vous le sers maintenant. Ils nous paraissent cependant les moins complexes, presque les plus abordables, tellement ils réalisent sans alliage, fusion des métaux, les dogmes de notre participation à la vie trinitaire. La science théologique du saint ne s'est jamais montrée plus vaste, plus pénétrante, plus audacieuse, ça c'est vrai. Et cependant, comme elle excelle aux larges et heureuses synthèses, a marqué d'un trait plus net les points les plus importants de sa doctrine, les étapes décisives de la vie spirituelle, comme elle use d'un langage simple et précis, elle n'a jamais été plus lumineuse et plus à notre portée. Aussi, là j'enfonce le clou, aussi est-ce dans ce traité sublime, la Vie-Flamme, qu'il faut aller chercher le résumé le plus clair et le plus fidèle de la pensée de saint Jean de la Croix, en même temps que le reflet le plus pur de son âme, un reflet qui nous apporte plus que de la lumière, la chaleur douce et vivante de sa tendresse. Donc c'est là qu'au dire du Père Marie-Eugène, on trouve le saint Jean de la Croix le plus, voilà. C'est quand même quelque chose, ça. Et j'avais même aussi, oui, alors une dernière phrase, là, c'est la fin de la fin. Donc tenez-vous bien. Mais pour sublime que soit la Vie-Flamme et les harmonies silencieuses dans lesquelles elle nous introduit, c'est bien vrai, n'oublions pas que ce traité est celui qui nous offre le résumé le plus vivant de la doctrine du saint, celui auquel chacun reviendra après avoir fréquenté les autres livres, pour retrouver en leur synthèse définitive les enseignements les plus clairs du docteur et les ardeurs les plus paisibles du saint. Frère Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, OCD. Voilà le dernier mot, le mot de la fin, qui répond à toutes les objections. Non seulement qui répond à toutes les objections, mais qui les balaie d'un trait de plume. 1952, je vous prie. Voilà. Ça peut aller. Non, vous restez pas sur votre fin, quand même. Vos cavernes du sens ne sont pas... Non, ça peut aller. On peut en rester là. Voilà, écoutez, très belle fête de la Pentecôte. On est quand même extrêmement bien préparé par ce texte. Magnifique comme un masque. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Ah, oh, voilà. J'espère que vous serez comme ça tout le week-end. Oh, vive la flamme. Belle fête de Pentecôte.
Merci.